France Inter. Le masque et la plume. L'actualité du cinéma est au sommaire du masque aujourd'hui avec un film catastrophe, avec l'adaptation de deux romans autobiographiques dans la France des années 60, ou encore avec Robert De Niro en mafieux deux fois. Pour en débattre, voici Christophe Bourseiller, nouvelle plume du magazine Transfuge, Charlotte Garçon, des Cahiers du cinéma, Xavier Le Herpeur de France Inter et de la revue La 7ème Obsession, et Florence Colombani du Point. Dans le détail, voici le programme. Il y aura La Cache de Lionel Bayer, Lire Lolita à Téhéran d'Eran Riklis, Ma mère, Dieu, Sylvie Vartan et moi de Ken Scott, The Alto Nights de Barry Levinson et Magma de Cyprien Vial. Bonjour et bienvenue pour 45 minutes de cinéma dans vos oreilles, c'est Le Masque. La séquence courrier, tandis que Christophe Bourseiller se racle la gorge.
Oui, c'est normal, je démarre.
Alors, Mickey 17, nouveau long-métrage de science-fiction signé Bong Joon-ho, est en tête du box-office en France. Et vous poursuivez le débat dans vos messages de la semaine. En voici quelques-uns. J'ai été obligée de mâcher un chewing-gum pendant toute la durée du film pour éviter de dormir. Témoigne Guy Angela de Mélan, pour qui Mickey 17 est, je cite, un navet boursouflé. Arnaud Sanquer, correspondant fidèle, suggère que Bong Joon-ho abandonne le registre du burlesque dans la salle, je le cite, je me serais cru parfois à un repas de famille où le tonton gênant balance des blagues affligeantes. Stéphanie Leroy, au contraire, multiplie les compliments pour Mickey 17, toujours extraordinaire, fabuleux, hyper intelligent. Votre enthousiasme est quasi unanime en réaction aux critiques acérées du masque contre Parthénopée de Paolo Sorrentino. C'est la première fois que je vous écris et c'est un peu émouvant pour moi, commence François Thomine de Bayeux. Vous n'avez pas relevé la performance de l'actrice principale, Céleste Dalla Porta, la galerie remarquable des seconds rôles, la beauté de la bande originale. Post-scriptum, d'avoir écrit ce texte m'a donné envie de retourner voir Parthénopée. Conclut François Thomine, êtes-vous retourné voir Parthénopée par acquis de conscience les uns les autres?
Non.
Bah on n'a qu'une vie, hein, quand même.
On n'a qu'une vie. Très bien. Arthur Monnier, dans un mail assez virulent, déplore qu'à cause de l'univocité des critiques, beaucoup de spectateurs n'iront pas voir Parthénopée. Et selon cet auditeur, c'est une splendeur dont on ressort avec le sentiment d'avoir vécu une belle journée d'été, un été qui s'achève. Hervé Podras de Nice précise « Je ne suis ni vieux, ni hétéro, ni libidineux. Je ne prends pas de Viagra. » Puisque tels furent les mots qui qualifièrent Paolo Sorrentino à la tribune, et bien malgré tout ça, j'ai trouvé ce film magnifique. Petite réaction à chaud, après le visionnage de Black Dog du chinois Guan Hu, nous écrit Jack Parmentier depuis la Belgique. Jack Parmentier résume le film comme ceci. Deux heures d'un type au charisme d'huître, qui ne dit rien, boit de l'alcool au goulot, se déhanche sur un terril et regarde au loin vers une vie meilleure. Bref, je n'ai pas trop apprécié. Michel Essertier de Lyon parle au contraire d'une claque, d'une pépite, d'une révélation. Concernant The Insider, film d'espionnage conjugal, si je puis dire, de Steven Soderbergh, Guillaume Constant de Toulouse estime qu'il est préférable de faire une partie de Cluedo plutôt que de perdre 17 euros dans une place de cinéma. Je signale que vous recommandez chaudement L'Attachement de Karine Tardieu en salle depuis un mois, mais que vous êtes plusieurs à recommander un patch à Valeria Bruni Tedeschi pour arrêter la clope, parce qu'elle fume beaucoup dans ce film. Enfin, j'ai bien pris note que l'absence des coups de cœur vous avait déplu. Cependant, depuis Arles, Gwenaël Vassé, ou Vasse, est allé voir Les Damnés de Roberto Minervi en suivant les conseils justement prodigués dans cette séquence, et il témoigne. Pour reprendre la terminologie désormais en vigueur, j'ai trouvé ce film exigeant. Très exigeant. Très, très exigeant. J'irais même jusqu'à dire que j'étais presque heureux qu'il ne dure qu'1h29, tant je me suis sentie peu à la hauteur face à un tel niveau d'exigence. On commence avec Ma mère, Dieu, Sylvie Vartan et moi, titre programmatique du nouveau long-métrage de Ken Scott avec Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Sylvie Vartan, Jeanne Balibar, Anne Leni. Le film est adapté du roman autobiographique de Roland Pérez, avocat et animateur radio. Le générique du début nous précise donc que l'histoire à venir est inspirée de faits réels. Nous sommes dans la France de l'année 1963. Esther, Leïla Bekhti à l'écran, donne naissance à Roland, son sixième enfant. Roland naît avec un pied beau. Et Esther, capitaine de cette famille juive séfarade, lui promet qu'il marchera et qu'il aura une vie fabuleuse. Après avoir consulté beaucoup de médecins, elle sollicite une rebouteuse. Et Sylvie Vartan, dans tout ça, eh bien, Sylvie et ses chansons font partie du traitement pour mettre debout le petit Roland. L'histoire se déroule sur plusieurs décennies et Jonathan Cohen interprète Roland devenu grand. Alors, Sylvie Vartan n'est pas Mylène Farmer, mais qu'en as-tu pensé, Xavier ?
Ah, j'étais sûr,
Je suis prévisible.
Glissé comme
oui,
ça,
je sais.
Délicatement, une petite allusion à Mylène Farmer. Alors, justement, moi, quand je vois le déroulé du titre, hein, Dieu, ma mère, Sylvie Vartan, enfin bon, bref, je me dis, oh là là, on va cocher les cases, j'y vais pas de gaieté de cœur, j'y vais sans a priori, mais sans particulièrement m'enthousiasmer. Le premier miracle de cette histoire, c'est que le héros soit hétérosexuel, quand même, à la fin. Parce qu'entre une mère envahissante, castratrice, il est danseur à un moment chez les Carpentiers et il écoute Sylvie Vartan, comme quoi il n'y a pas de déterminisme.
Ça coche beaucoup de cases.
Ça coche beaucoup de cases, mais comme quoi, effectivement, il n'y a pas de logique. À part cela, il y a tout ce que je n'aime pas et pourtant, j'ai une vraie tendresse pour le film. Le côté vintage m'embarrasse très très souvent, la reconstitution, le huis clos dans l'appartement, des personnages très marqués quand même. Enfin voilà, chaque personnage est un archétype, la mère juive, comme tu l'as très bien dit, également à sa manière. Jonathan Cohen, quand il apparaît, effectivement, insuffle un vent un peu insolent que j'aime bien. Mais
et sérieux, d'ailleurs.
Oui, et sérieux, non, mais c'est, en plus, c'est un très très bon comédien. Il est capable, dans un jeu très au premier degré, d'avoir beaucoup d'ironie, ou inversement. Et en même temps, je me suis fait complètement avoir. C'est-à-dire que, d'après les premiers chiffres parus cette semaine, c'est un gros succès populaire, et c'est pas injustifié. Je ne sais pas si c'est Sylvie Vartan qui attire les foules, mais le film ne se moque jamais des spectatrices et des spectateurs auxquels il s'adresse. C'est une comédie populaire au sens noble du terme, improbable effectivement quand on voit son déroulé, et pourtant complètement vrai. La fin est un tout petit peu ratée, voilà, sur l'écriture du livre, cathartique, exutoire et tout ça. Mais bon, Sylvie Vartan avait failli épouser une carrière de comédienne, puisque c'était le premier choix de Jacques Demy pour les Parapluies de Cherbourg.
Ah, je l'ignorais.
Bien avant.
Et c'est une remarquable comédienne, Sylvie Vartan.
C'est une très bonne comédienne, mais enfin, elle n'a pas fait carrière, c'est comme Mylène, hein, pour l'instant.
Elle était dans un film génial, mais elle était dans un film sulfureux qui était L'Ange Noir de Brissot.
Absolument. Je rappelle. Là, elle est un tout petit peu engoncée, quand même, effectivement, dans le fait de jouer son propre rôle. Et c'est peut-être, effectivement, la partie la moins souple du film. Mais ceci, mis à part, moi, j'ai la reconnaissance du ventre. Je me suis beaucoup amusé, j'ai trouvé ça émouvant au bon endroit. Je serais peut-être le seul ce soir, mais je l'affirme.
Est-ce que toi, tu t'es amusée, Florence ?
Non, je ne me suis pas du tout amusée et j'étais même un peu effrayée. Je trouve que la première partie, qui est cette partie consacrée à l'enfance du personnage et à son tête-à-tête avec sa mère, puisque même s'il y a d'autres enfants, il y a un mari, c'est quand même un face-à-face presque à mort entre cette mère qui promet à son enfant qu'il aura une vie fabuleuse et cet enfant qui se traîne par terre parce qu'il a un pied beau et qu'on ne veut pas l'appareiller et que donc il est contraint jusqu'à quand même 5 ou 6 ans de ramper par terre. Je trouve que c'est terrifiant. Et alors, il y a beaucoup de musique en jouée pour rendre tout ça amusant. Il y a des papiers peints colorés, des robes ravissantes que porte Leïla Bekhti, un traitement caricatural de tout le monde, notamment du personnage de Jeanne Balibar, qui est donc qualifié de saleté, ce qui est censé être drôle, et que moi je trouve aussi assez glaçant comme façon de parler des gens, parce que Jeanne Balibar joue une sorte d'assistante sociale qui vient dire « mais peut-être qu'il faudrait scolariser votre enfant, peut-être qu'il faudrait quand même le traiter ». Tout ça, ça m'a mise très mal à l'aise, et je trouve que ce traitement de comédie sur quelque chose qui, dans le fond, est très profondément dramatique et même pathétique, enfin, c'est vraiment déchirant. Après, une fois que le personnage est adulte, c'est autre chose. Et là, c'est une comédie qui fonctionne bien, et l'apparition de Sylvie Vartan est plaisante. Enfin, moi, c'est vraiment cette première partie qui m'a laissée dans un malaise.
T'as été mal à l'aise, toi, Christophe ?
Ah, pas du tout, au contraire. Moi, je suis, pour une fois, c'est incroyable, je suis un peu d'accord avec Xavier, c'est-à-dire que je suis allé à reculons.
Je peux reprendre la parole pour changer d'avis.
Je suis allé à reculons en me disant, oh là là, non, c'est pas possible. Une comédie française, l'histoire d'un môme avec sa mère. Enfin, j'étais vraiment, mais j'y allais, j'étais prêt à dormir. Enfin, vous voyez, je suis allé dans l'idée de dormir. Et pas du tout.
T'as dansé.
Non, mais c'est vrai, parce que je veux dire, le nunuche en moi s'est réveillé, et je dois dire que j'ai trouvé
ça. Je ne sais pas si ça sert le film.
C'est émouvant, c'est pas drôle, c'est pas une comédie. C'est très émouvant. C'est un film sur l'amour qu'une mère porte à son fils. Et quand on est fils, qu'on a été fils, comme c'est mon cas, ouais. Je veux dire, on s'identifie.
Ah oui.
Je veux dire, ah ben oui, il y a quelque chose, c'est très très beau, très fort. Et alors, Leïla Bekhti est absolument géniale. Leïla Bekhti, je trouve, là, elle a vraiment trouvé un rôle de mère juive séfarade, absolument sidérante. Elle est époustouflante. Je trouve que c'est elle qui porte le film, littéralement. Alors oui, c'est un film commercial. Oui, il y avait plein de gens dans la salle. Et alors, c'est un crime? Là, je vous glace.
Ne t'énerve pas, vous avez dit le contraire.
Alors, c'est vrai qu'il y a un côté success story, je suis d'accord. C'est vrai aussi que Ken Scott, c'est pas un réalisateur qui a fait jusqu'à présent des films inoubliables, hein, Starbuck, Au revoir le bonheur, des choses comme ça. Ça m'a fait plaisir de voir Leïla Bekhti et Sylvie Barton, parce que c'est une grande comédienne.
Charlotte,
oui,
qui...
alors moi, mon premier disque acheté avec mon argent de poche, c'était L'amour, c'est comme une cigarette. Je reconnais encore les paroles. Ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. Un peu comme le film quand même. Mais oui. Cela dit, je pense que derrière...
Étonnante Charlotte Garçon des cahiers du cinéma.
Je pense que derrière tout ce pittoresque qui vous ravit, messieurs, et qui vous donne la reconnaissance du ventre, je suis d'accord avec Florence, il y a quelque chose d'assez malsain. Et derrière la foi de la mère, parce qu'il est question de miracles qu'elle veut accomplir, etc. Il y a même, en off, la foi de ma mère était plus vaste que l'océan. Vous voyez un peu le niveau littéraire quand même. Derrière cette foi, il y a une mauvaise foi.
Ah, c'est grand
public. Il y a vraiment... Mais non, mais il y a la mauvaise foi du déni du handicap, en fait. Donc, en fait, c'est horrible. Et c'est ce que disait Florence. En réalité, la mère, elle se substitue à la loi. Mais alors, faisons ça. Si on fait un film comme ça, il faut aller au bout. Et il faut aller au bout de la monstruosité de la mère. Et il faut faire comme Woody Allen et mettre une surimpression de la tête énorme de sa mère au-dessus de lui dans New York, comme il l'a fait.
On y pense beaucoup. Hein.
Voilà.
Je trouve que c'est
mais il faut aller au bout, dans ce cas-là, de ce complexe d'Oedipe. Or, la deuxième partie où il se dit à 30 ans, bah, faudrait peut-être un tout petit peu que je m'émancipe. Pour moi, ça marche plus du tout. Et ça continue de regarder vers la mer comme une sorte d'astre qui continue de... Donc, vraiment, je trouve ça assez entre deux et en même temps assez malsain, finalement.
Alors, après ma mère, Dieu, Sylvie Vartan et moi, un titre plus court, c'est La Cache du cinéaste suisse Lionel Bayer et dernier film tourné par Michel Blanc. Le ton est donné tout de suite. En voix off, Lionel Bayer s'adresse à nous et précise que La Cache est l'adaptation du roman de Christophe Boltanski. Alors que le livre déployait l'histoire des Boltanski sur tout le XXe siècle, Lionel Bayer se concentre sur un mois, à savoir mai 68. Donc, c'est la révolution au dehors, mais tout le film, ou quasi, se déroule au-dedans. Soit à l'intérieur de l'appartement-refuge bivouac des grands-parents du petit Christophe, soit à l'intérieur de la Citroën Ami 6 rouge pétard, conduite par la grand-mère, appelée Mère Grand, comme dans les contes, et qui est interprétée par la géniale Dominique Raymond, entre autorité et fantaisie. Le petit Christophe, qui a 8-9 ans, ça peut être bizarre de dire le petit Christophe, qui a 8-9 ans, passe donc la plupart de son temps chez ses grands-parents, son père et sa mère étant pris par des activités militantes, et dans cet appart que personne n'arrive à quitter, fusionne le grand-oncle, Jean-Élie, linguiste, un oncle plus jeune, Christian Boltanski, artiste plasticien, et l'arrière-grand-mère, juive d'Odessa, arrivée en France à la fin du XIXe siècle. C'est dans cet appart-monde que Christophe va découvrir l'histoire de sa famille, autant que l'histoire de France, marquée par l'antisémitisme. Et pourtant, c'est une comédie à l'affiche Michel Blanc, qui joue le grand-père, Dominique Raymond, Liliane Robert ou encore William Lebgill, Christophe de Grand.
Lionel Bayer, c'est un cinéaste assez particulier parce que, si je n'ai pas vu tous ses films, mais ce que je me souviens d'un film qu'il avait fait qui était une sorte de road movie qui se passait au Portugal pendant la révolution des œillets qui s'appelait La Grande Onde à l'Ouest.
Ondes,
voilà,
les
c'était Les Grandes Ondes, pardon, Les Grandes Ondes à l'Ouest, enfin bref, et qui était un film déjà totalement nostalgique. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est orienté vers des réminiscences d'un passé lointain des années 1960-1970, et puis en même temps, avec un style Prime Sautier. C'est léger, c'est charmant. Il y a un petit côté Truffaut, je trouve. Il y a quelque chose d'un petit côté baiser volé. Il y a quelque chose de printanier dans ce cinéma.
Tu dis ça en
un
sautillant.
Petit parfum de nouvelle vague. Alors, c'est léger comme une bulle de savon, mais ça fait assez vite pchit. Ce qui est embêtant parce qu'une bulle de savon fait rarement pchit, mais enfin, peu importe.
Okay.
Mais parce qu'en fait, ils sont charmants. Et oui, Dominique Raymond est formidable.
Tu t'es ennuyé.
C'est très troublant de voir Michel Blanc. Mais en même temps, l'histoire tourne en rond. C'est-à-dire qu'on est tout le temps un peu dans la répétition de la même chose, jusqu'à une séquence un peu comique, comico-bizarroïde, dans laquelle le général de Gaulle arrive, on ne sait pas pourquoi. Surtout, il n'y a pas de rebondissement.
Et les rebondissements, ils sont liés au ton du film.
Dans l'inconscience.
Les rebondissements, ils sont liés au ton du film, je crois. Xavier.
Ah, mais ne l'aide pas, s'il n'a pas compris, c'est qu'il est bête, c'est point barre. Enfin, je vais dire, arrêtons de sauver le soldat Christophe Bourseiller.
Oui, ça va.
Alors, rectifions deux petites choses. Et là, ça n'est pas le dernier film de Michel Blanc, c'est le dernier qu'il a tourné, mais ce n'est pas le dernier à sortir, puisque
Le Routard
sort.
Qui est arrivé, bien sûr, mais on le savait.
Voilà.
Mais c'est le dernier film.
C'est plus embarrassant. Mais bon. Et Lionel Bayer, c'est pas un cinéaste du tout ni nostalgique. Je suis d'accord avec toi sur le terme Prime Sautier, en revanche. Moi, je me suis vraiment régalé. C'est-à-dire que je trouve que c'est un cinéaste qui a toujours un détail, une cocasserie, une intelligence dans le style. Alors, on peut lui reprocher peut-être d'en faire trop. Moi, pas du tout. Je trouve que c'est extrêmement bien dosé. Tu l'as dit, l'ouverture déjà, ce livre qu'on feuillette, la voix off qui nous dit que ça va être une adaptation de ce livre-là, qu'il faut s'ouvrir à l'imaginaire, que c'est un petit peu le pacte que Lionel Bayer veut avoir avec le spectateur. Et il en passera plusieurs dans le film, puisqu'à un moment...
Et puis, il y a une humilité aussi.
C'est un film
aussi.
De boomer. C'est le film du boomer absolu.
Pas du tout.
Quoi. C'est rare que c'était bien, mais 68.
Ah, c'est dommage, je prends la parole pour dire ça. Mais enfin, bon, c'est pas grave, c'est trop tard.
C'est pour essayer de dire quelque chose d'intelligent, parce que comme c'est toi qui parles...
Oh, bah oui, non, mais t'arriveras pas à rectifier la balance, ne t'inquiète pas. Et à un moment, il y a Dominique Raymond qui dit, non, la tristesse n'a rien à faire ici, il faut être joyeux. Et c'est exactement ça, le ton de Bayer, c'est qu'il faut trouver de la joie, du plaisir, une espèce de gourmandise, un peu pop, un peu graphique, un peu artiste, ça s'inspire énormément dans la mise en scène de ce qui se passe dans la rue, de ce qui est collé au mur, des arts qui sont naissants. Et en même temps, c'est pour mieux canaliser la mélancolie qui frappe à toutes les portes, dans chaque cadre, dans chaque plan. Moi, je trouve que c'est un film absolument magnifique.
Florence.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des très belles choses dans le film. Je n'ai pas été conquise par l'ensemble, mais ce que je trouve assez frappant, c'est comme il y a des points communs avec Dieu, Sylvie Vartan. Il y a la judéité, il y a cet appartement qui est une sorte de prison. Et il y a bien sûr donc cette névrose familiale qui est représentée comme ça dans ce drame de l'appartement, avec un ton beaucoup plus approprié pour le coup. Et je trouve que le film se perd un peu dans son côté néo-burlesque, un peu à la Wes Anderson. Moi, j'ai vu vraiment une influence très nette de Wes Anderson.
Il y a l'influence de Franquin aussi. Aussi, génie de la bande dessinée du XXe siècle, il cite vraiment ses sources.
Et ça fait penser à Marine Karmitz dans ses films maoïstes de l'époque.
Il croque des silhouettes comme ça, et avec un certain talent, mais aussi pour moi avec quelque chose qui nous met à distance tellement c'est stylisé. Mais dans tout ça, il y a une scène que j'ai trouvée absolument bouleversante et qui est cette scène où Michel Blanc est au restaurant avec des collègues médecins et la police fait irruption dans le restaurant parce qu'ils sont en train de pourchasser un manifestant. On est en plein mai 68, il y a beaucoup d'agitation.
Et Michel Blanc se planque.
Et Michel Blanc se met sous la table parce qu'il a des réflexes de la Deuxième Guerre mondiale, d'un juif qui s'est caché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça est sans commentaire, sans dialogue. Une fois que les policiers sont partis, il ressort de sous la table et il part, sans commenter ça avec ses collègues. Dans cette seule scène, il y a quelque chose d'une telle puissance. D'abord, ça nous rappelle la puissance du comédien, Michel Blanc, et ça nous donne aussi tout cet univers du livre La Cache que finalement Lionel Bayer a choisi d'adapter de façon assez spéciale puisqu'il a choisi uniquement l'épisode mai 68 qui n'était pas développé dans le livre. Rien que par cette scène, il restitue tout. Et ça, c'est assez fort.
Charlotte ?
Oui, c'est aussi ce qui m'a plu. C'est au fond la mise en scène à partir de cette idée de cache, c'est-à-dire un réduit, une sorte de cagibi à l'intérieur de la maison qui là sert de principe de mise en scène. Par-delà le côté vignette et album de famille et famille Tenenbaum à la Wes Anderson qui m'a un peu agacée, j'ai aimé le fait que en fait, la cache est une sorte de modèle pour plein d'autres endroits et plein d'autres décors dans le film. Par exemple, la table, mais aussi la deux chevaux de la mère Grand, etc.
Ah non, c'est une Citroën Ami 6.
Pardon, l'Ami 6, oui, exactement. Parce qu'elle vit dans sa voiture, oui, c'est vrai. Et finalement, je me dis qu'il a réussi quelque chose avec cette idée de que cette cage soit une espèce de centre vide, de siphon qui absorbe à la fois le passé, d'où le surgissement de De Gaulle comme ça, un peu incongru, et en même temps, qui continue à être active dans le présent. Parce qu'on voit que ces gens, s'ils ne peuvent pas quitter cet appartement, c'est qu'au fond, le passé ne passe pas et qu'il y a cette sorte d'aimant qui est cet endroit vide dans lequel on ne revient jamais, en fait. Donc ça, quand même, ce principe de mise en scène, je l'ai trouvé vraiment beau dans le film.
Une contribution critique du public pour La Cache de Lionel Bayer. Oui. Bonjour.
Bonjour. J'aime bien Christophe Bourcelier, mais là, je crois qu'il a raté le film, quand même. Là. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Xavier Le Harper. C'est vraiment un régal, ce film. Faire un film sur un sujet plutôt difficile d'accès, à en faire une comédie tout en respectant, parce qu'il a eu l'accord de Boltanski pour ne prendre que cette période-là, c'est un régal. Je veux dire, Lionel Bayer, j'admire absolument son travail, dont ce film-là.
Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre dans la salle ? Bonjour.
Bonjour. Je voudrais juste rajouter une chose. Il est très beau visuellement en termes d'esthétique. Vous avez parlé des affiches pop. Vous avez, en fait, en s'appuyant sur ces éléments de décor, il travaille aussi une idée qui est l'idée de ce qu'on retient et de la mémoire. Et en fait, il y a presque une espèce de, à la fin, je trouve un peu un espèce de réalisme magique où on se dit, est-ce que c'est vraiment des souvenirs ? Est-ce que c'est important ? Quelle est la place finalement de ces objets-là par rapport aux souvenirs ? Enfin, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de plus intime et de plus introspectif, voilà, qui est assez beau.
Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Je vois un monsieur qui ferme les yeux, là. Je clôt cette tribune consacrée à La Cache et le film suivant s'intitule The Alto Knights, où Robert De Niro interprète non pas un, mais deux rôles. Décidément, après Mickey 17, où Robert Pattinson est dupliqué, voici De Niro au carré, donc dans un registre qui a fait sa gloire, à savoir le rôle de mafieux. Bienvenue donc dans la mafia new-yorkaise de la fin des années 50, où De Niro est à la fois Frank Costello et Vito Genovese, son meilleur ami, qui devient ensuite son ennemi juré. The Alto Knights, c'est d'ailleurs le nom du club où l'amitié entre Frank et Vito s'est nouée. Quand il est Frank, De Niro fait le récit de son histoire, tiré de faits réels, face caméra, et ses yeux plantés dans les nôtres. Le tout est réalisé par Barry Levinson, auteur de succès américains comme Rain Man ou Good Morning Vietnam. Nous étions alors à la fin des années 80 et en 2025. Comment ça se passe, Florence ?
Écoute, Rebecca, dans ton introduction, tu parlais de film catastrophe, sans doute à propos de Magma, qui est une histoire d'éruption volcanique. Ouais. Mais je crois que c'est The Alto Knights. Le vrai film catastrophe, c'est un naufrage, parce que c'est un film qui reprend des motifs de la grammaire du film de mafia, en effet, chez Scorsese, chez Coppola. Bon, ça cite surtout beaucoup Scorsese et beaucoup Les Affranchis. Et d'ailleurs, le scénariste est le même, hein, c'est Nicolas Pileggi, qui a été aussi le scénariste de Casino, donc des très grands films. Là, il fait une sorte d'auto-parodie, et De Niro lui-même, alors, dans un des rôles se parodie, dans le rôle de Costello, et dans le rôle de Genovese, il imite Joe Pesci, dont il reprend la voix un peu surrégule, le teint rougeau, il essaie de se faire un peu une stature un peu plus petite. Et tout ça est vraiment mais étrange, quoi. C'est un drôle,
alors,
c'est
moi,
un drôle
de moi, film. Moi, je t'avoue que je suis allée voir le film sans savoir que De Niro interprète les deux rôles. Je me suis posé la question pendant 20 minutes. Et au bout d'un moment, je me dis, ah, mais oui, forcément, c'est lui. Ouais. Et voilà, ça m'a beaucoup troublée. C'était même assez malaisant, en fait.
Et ce qui est troublant, c'est que quand on voit des flashbacks ou des photos de jeunes, c'est deux acteurs différents.
Oui.
Mais quand ils vieillissent, c'est le même. Enfin, c'est vraiment très, très bizarre.
Et c'est un peu dédoublé. Xavier ?
C'est terrible qu'un aussi mauvais metteur en scène appelle à lui d'aussi grands cinéastes comme Scorsese ou comme Leon. C'est quand même un peu embarrassant. Surtout quand on a un scénario qui est hyper bavard. Moi, je me suis perdu. Ils répètent tout 25 fois. On a l'impression qu'ils ont soit Alzheimer, soit ils sont sortis de l'EHPAD. Ils sont en boucle sur leur bout de dialogue. On a même l'impression qu'ils sont en train de les improviser, qu'ils n'ont rien sous la main en termes de dramaturgie, en termes de scénario. C'est concernant l'idée de face caméra, je ne la comprends pas, surtout qu'en plus, visiblement, c'est Robert De Niro lui-même qui parle, puisqu'il est habillé à la manière d'aujourd'hui. C'est abyssalement consternant, bête. Et il y a une seule question. Alors moi, j'étais comme toi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis allé le voir en salle, je me suis dit, mais c'est quand même drôle.
C'est bizarre, oui.
Pardon, désolé, hein, n'y voyez aucune malice de ma part, mais c'était le nez qui me permettait de distinguer les deux personnages.
Oui, parce qu'il y en a un qui porte des
prothèses.
Il y a plus de latex là-dedans que n'importe quelle soirée SM dans le Barère. Enfin, c'est abominablissime, mais vraiment. Et surtout, on se pose la question, mais pourquoi cette idée ? Alors, soit Robert De Niro
Joey Pesci n'était pas dispo.
Voilà. Alors, soit Robert De Niro est très, très cher et on lui donne deux rôles pour essayer, effectivement, d'éponger un tout petit peu la dépense.
De faire une économie
d'échelle. Soit il y a un pari fou, c'est comment, qui mettre en face de l'acteur le plus cabot d'Hollywood, Robert De Niro ?
Lui-même.
Lui-même. Et c'est comme la fission nucléaire. Vous mettez deux électrons et ça... Ou deux protons, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça explose.
Charlotte,
Alors, en fait, tu ne crois pas si bien dire, enfin, vous ne croyez pas si bien dire sur cette idée qu'ils sont peut-être à l'EHPAD, parce que même dans The Irishman, le film de Scorsese avec De Niro, le dernier avec De Niro...
Et scénarisé par le même auteur, d'ailleurs,
Nicolas Scorsese. Scénarisé par le même auteur, c'est pareil, c'est une structure en flashback où le type, le mafieux, est à l'EHPAD. Donc je pense quand même que le film joue de qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien et qu'on n'a plus que les paroles, enfin, il y a un côté miette de tout ça, à la fois de tout ce cinéma et presque de l'acteur lui-même. Donc moi, j'ai pas... Non, je n'aime pas spécialement le film, mais j'ai trouvé un certain plaisir à écouter parler De Niro, à l'écouter parler avec deux accents différents, disons, face à lui-même, et à le trouver très solitaire, effectivement, parce que quand on sait, une fois qu'on sait que c'est le même, on se dit, bah, il a fait ça tout seul. Et du coup, il y a un côté soirée diapo, et en fait, effectivement...
Un peu sous speed, par moment.
Alors, dans le montage, c'est ça, puisqu'on a un passage de tous les... Vous l'avez dit, de tout le cinéma mafieux qu'on connaît, mais en plus aussi des images d'archives de ceux dont c'est tiré. Puis, à la fin, le personnage lui-même dit des fois, je me repasse des diapos, comme ça, de notre jeunesse, et on se dit, bah voilà, la boucle est bouclée. Et moi, je me suis dit que ce De Niro de la fin, qui est habillé comme aujourd'hui, ressemblait étrangement à Scorsese. Enfin, il a été mangé par le cinéma et il n'en reste plus que ce fantôme, quoi.
Est-ce que tu as aimé De Niro au carré, toi?
Alors,
Christophe,
je crois que vous n'avez pas compris le film, donc je vais vous l'expliquer.
Explique-nous,
Barry Levinson, c'est aussi celui qui a travaillé avec Mel Brooks. Et Barry Levinson, c'est quelqu'un qui, là, a réalisé une comédie mafieuse. Une comédie. Ah. Donc évidemment, ne soyez pas surpris qu'il y ait un côté souriant, un côté un peu dérangé, décalé. On est dans une espèce de caricature de la mafia. Et c'est vrai que c'est un honnête divertissement mafieux, je le reconnais. Alors évidemment, ce qui fait pour moi l'intérêt du film, c'est le double rôle de Robert De Niro. Je suis comme toi, j'ai réussi à me repérer au bout de 20 minutes grâce au nez, mais c'est bien la seule chose qui est commune entre les deux personnages. Alors évidemment, c'est une performance assez magnifique, et c'est peut-être ça qui fait, on pourrait dire, l'intérêt cinématographique du film. Alors évidemment, on peut dire que Robert De Niro cabotine à l'extrême.
Euphémisme.
C'est peut-être le léger défaut, pourrait-on dire. Et moi, personnellement, je le préfère dans une très bonne série qui est Zero Day, que je vous recommande. Mais pour en revenir au
oui,
film...
Oui, merci.
Ça ne me fera pas oublier Le Parrain, ça ne me fera pas oublier Casino, film dans lequel d'ailleurs De Niro était présent, mais c'est une sympathique comédie.
Mais c'est un robinet à film de mafia. De
oui, c'est un film qui joue avec humour sur les codes du film de mafia.
C'en est donc terminé de The Alto... Non, c'en est pas terminé. Enfin, je veux dire, je clôt le débat, quoi. Du Masque sur The Alto Nights de Barry Levinson. Et on passe à Magma, troisième long-métrage de Cyprien Vial, qui réunit Marina Foïs et Théo Christine. Nous sommes à la Guadeloupe et Marina Foïs est Katia, une volcanologue installée sur l'île depuis une dizaine d'années. Katia dirige toute une équipe, dont fait partie Aimé, joué par Théo Christine, un jeune Guadeloupéen, Thésard, à qui elle transmet son savoir. Donc avec ce duo Katia-Aimé, l'un des thèmes du film, c'est celui d'un apprentissage réciproque. Mais c'est aussi un film catastrophe qui ne filme jamais la catastrophe. Le volcan de l'île, la Soufrière, menace les habitants d'une éruption, mais le volcan est surtout présent par le son, par des taches de couleur aussi, sur une image numérique. Et le danger de l'éruption va mettre à jour des tensions sociales, post-coloniale et politique. Charlotte.
Oui, alors c'est un film dont on voit très bien ce qu'il évite, justement, c'est-à-dire comme écueil, et dont j'ai trouvé qu'il avait une sorte de souci de ne pas jouer du spectaculaire un peu obscène que constituerait le suspense. Bah, quand est-ce que ça va péter, quoi? Quand est-ce que ça va être effectivement la catastrophe? Du coup, on suit Marina Foïs un peu comme un film de métier, c'est-à-dire qu'on voit d'assez près comment elle touche les pierres, comment elle recueille les cendres, elle les analyse, elle écoute le volcan un peu comme si c'était un corps qui respire. Bon, c'est assez beau. Mais surtout, je me disais, il y a une sorte de bascule entre le spectaculaire du film catastrophe et la psychologie de la volcanologue. Mais je trouve un peu dommageable qu'il y ait une sorte de réduction, du coup, parce que ça miniaturise les problèmes, les enjeux autour d'une personne. Alors, son enjeu, c'est quoi? C'est comment transmettre, mais surtout comment transmettre à quelqu'un qui est guadeloupéen. Et comment ne pas jouer les scientifiques, les égaux scientifiques coloniaux, post-coloniaux. C'est assez beau, cette idée de transmission, mais je trouve que le film reste un peu comme ça sur le papier, et du coup, il m'a donné envie d'aller revoir un film ou plusieurs des films récents de Werner Herzog, où là, on voit le personnage qui a inspiré cette volcanologue, puisqu'elle s'appelle aussi Katia, comme Katia Kraft, le couple Maurice et Katia Kraft, qui, eux, en sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont été effectivement emportés par une éruption au Japon. Et lui, Herzog, il n'a pas peur du sensationnalisme et sa tâche.
Christophe.
Moi, je trouve que c'est un film plutôt intéressant, plutôt habile, parce qu'il joue avec les codes du film catastrophe, puisque, en fait, au départ, on s'attend à une catastrophe, on attend la catastrophe.
C'est ce que Charlotte disait.
C'est le pic de Dante, il va y avoir une épouvantable catastrophe. Et le séisme qui se produit n'est pas celui qu'on attend, c'est un séisme social. Et là, j'ai été cueilli, et là, j'ai trouvé que c'était malin, intelligent, et que c'était raffiné. En plus, je dirais, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Charlotte, parce que moi, j'ai trouvé les images magnifiques. Et j'ai trouvé notamment, j'ai jamais vu la Guadeloupe aussi belle que dans ce film. C'est vraiment là, c'est filmé, mais c'est vrai qu'on pense à Werner Herzog. Tu viens de me donner l'idée, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est une façon de filmer la nature que moi j'ai trouvé absolument magnifique.
Mais le séisme social, il n'est pas tellement montré.
Il est montré. Je ne suis pas d'accord du tout. La dimension néocolonialiste incarnée par le préfet Mathieu Demy, et puis en même temps, la dimension xénophobe. Il y a des passages assez durs, et il ne dissimule rien, Cyprien Vial. Il montre la complexité de la société guadeloupéenne. J'ai trouvé ça, de ce point de vue-là, très intéressant. Alors, par contre, il y a une forme d'humour, je tiens quand même à vous le dire, c'est que le film est truffé de dialogues scientifiques incompréhensibles, se croirait dans Star Trek. Donc, c'est un film intéressant qui lance le débat, malgré peut-être des faiblesses dans le scénario, parce qu'on a du mal à comprendre parfois le personnage.
Et je passe la parole à Xavier Leherpeur. Xavier.
C'est un film sur le fait que, justement, puisqu'on parle de failles, tout ça est très faillible, finalement. Puisqu'il y a des données contradictoires, qu'on ne les interprète pas toujours, qu'il faut attendre effectivement qu'elles se confirment ou pas. Il y a un écho, mais plutôt malin, pas du tout poujadiste, avec ce qu'on a vécu avec le confinement, c'est-à-dire effectivement, on pousse les populations chez elles avec une vraie...
Exactement, parce que cette éruption menaçante, ça pourrait être une épidémie, ça pourrait être une guerre. Épidémie,
c'est-à-dire qu'ils sont délocalisés, et on voit bien l'inégalité sociale devant cela. C'est jamais... surligné, je trouve qu'il y a une question du point de vue qui passe par le hors-champ, qui passe par l'ellipse, qui passe par l'intelligence des dialogues et par les rivalités. Et puis il y a ce couple formidable, c'est un film de métier. Là, effectivement, Charlotte a dit le mot très précis, mais c'est passionnant de bout en bout, vraiment. Et Marina Foïs et Théo Christine sont absolument magnifiques. En plus, Marina Foïs, elle est habillée comme elle est habillée en Hervé Guibert dans la pièce Les Idoles de Christophe Honoré. Et quand elle filmait dos dans la ville, une ville entièrement déserte, il y a quelque chose de terriblement ambigu, lointain, et je trouve que c'est magnifique.
Et les plans, justement, de la Guadeloupe dont tu parlais, Christophe, sont tendus par le danger, quoi.
Il y a une scène de toit où ils sont tous les deux en train de ramasser des poussières sur le toit. Il ne se passe rien et il se passe plein de choses, en fait.
Florence.
Oui, il y a aussi Théo Christine, qui est cet acteur vraiment très doué. Je pense qu'on va beaucoup voir au cinéma dans les années qui viennent et qu'on a découvert. Enfin, pour moi, je l'avais découvert dans Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel, qui était là aussi un très beau film français récent. Donc, Magma réussit, je trouve aussi, à être profondément ancré dans l'histoire de la Guadeloupe. Parce que, en effet, il y a ce côté métaphorique, ça pourrait être un virus, mais c'est une éruption volcanique à la Guadeloupe et c'est l'évocation d'un épisode tragique de l'histoire de la Guadeloupe.
De 1976.
1976, où on avait retenu les gens loin de chez eux pendant des mois à cause d'un désaccord scientifique et il y a des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens pour qui ça a eu des conséquences.
À cause d'un combat d'ego entre Haroun Taziev et Claude Allègre.
Ça donne au film un ancrage qui est bien en écho avec la façon dont le territoire est filmé, représenté. Et c'est ce qui fait, en effet, toute son épaisseur.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour Magma de Cyprien Vial ? Oui, bonjour.
Bonjour. Pardonnez-moi pour ma référence à venir, mais lorsque j'étais enfant, ma mère emmenait ma sœur, mon frère et moi à Vulcania assez souvent. Et là-bas, on voyait des films catastrophes sur des volcans. On voyait des explosions, de la pyrotechnie, de la lave. On avait peur. On regardait en face la mort. Et là, dans le film que j'ai vu, j'ai trouvé que ce personnage du volcan manquait un petit peu. On ne ressent pas ce rapport à la Terre, ce sur quoi il marche. Les personnages, je trouve aussi, je regrette un petit peu, mais tous les volcanologues qui parlent ont quelque chose presque de mystique vis-à-vis des volcans, et ça, c'est pas creusé sur le personnage de Marina Foïs et Théo Christine. Donc voilà, c'est juste ce que je regrette dans ce film, c'est qu'il ne fait pas cette incartade vers l'obscénité de ce que doit être un volcan à mes yeux.
Merci. Après Magma de Cyprien Vial, on termine donc ce masque cinéma avec l'adaptation de Lire Lolita à Téhéran, best-seller mondial et roman autobiographique de l'autrice iranienne Hazar Nafizi. Ce roman est porté à l'écran par le cinéaste israélien Eran Riklis, dont c'est le 14e film. Golshifteh Farahani incarne Hazar Nafizi, une professeure de littérature anglaise qui rentre à Téhéran après avoir enseigné aux États-Unis. Nous sommes en 1979 et Hazar revient dans son pays avec son mari au début de la révolution islamique, à un moment où tous les espoirs semblent encore permis. Mais très vite, le voile est imposé aux femmes, les étudiantes se font arrêter, torturer, tuer, les livres dont parle Hazar dans ses cours sont censurés. Des années plus tard, puisque le film se déroule dans le Téhéran des années 80 et 90, Hazar décide d'organiser des retrouvailles chaque semaine avec ses étudiantes, avec ses anciennes étudiantes, pour parler de classiques de la littérature comme Lolita de Nabokov ou encore Orgueil et préjugé de Jane Austen, des romans qui semblent éclairer la situation en Iran et qui donnent des outils de résistance. Pour ce tournage, la ville de Téhéran a été reconstituée à Rome et le casting réunit comédiens et comédiennes iraniens exilés dont Golshifteh Farahani, je l'ai dit, Zahr Amir Ebrahimi ou Mina Cavani. Xavier.
Alors, je me suis tellement fait engueuler cette année pour avoir osé ne pas aimer des films sur des sujets inattaquables, la zone d'intérêt, Emilia Pérez, mon Dieu.
C'est courageux.
Voilà. Que je vais faire, mais alors vraiment, c'est très bien. C'est un très joli film sur la résistance des femmes face à la condition imposée par les ayatollahs en Iran. Bien sûr que c'est éminemment défendable. Sur le plan du cinéma, c'est un petit peu plus compliqué quand même, et sur le plan du scénario, j'aurais des réserves. Mais bien sûr que c'est un sujet très fort qu'il faut absolument soutenir. La littérature comme acte de résistance, surtout pour les femmes, Jane Austen, effectivement Lolita, des figures romanesques importantes qui ont marqué l'évolution et l'affranchissement.
Tu annonces bien.
Après, la mise en scène et le scénario sont très explicatifs. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de ne pas comprendre les enjeux du film qui sont constamment répétés dans les dialogues. Ils vont à un moment, ils obtiennent, des billets pour aller voir Le Sacrifice, grand film de Tarkovsky, bien évidemment. Et Golshifteh Farahani s'installe dans la salle et elle nous dit tout de suite « Je suis venu là pour voir quelles sont les coupes que la censure a effectuées sur le film ». Voilà, donc on sait ce qu'on attend, on attend les coupes et on les voit, voilà. Mais c'est un sujet inattaquable, absolument magnifique, des femmes effectivement qui résistent sous la torture et sous la censure.
Florence, comment tu vas t'en sortir ?
Eh bien, moi ça m'a bouleversée parce que c'est bouleversant de voir Golshifteh Farahani qui a quitté son pays parce qu'elle a osé ne pas porter le voile lors d'un tapis rouge pour un film américain dans lequel elle avait joué. Jouer maintenant une femme de la génération de sa mère au moment où le pays bascule. Dans son corps à elle, sur son visage, dans sa façon de parler, il se passe quelque chose pour moi de très émouvant. Il y a le fait qu'on voit aussi un personnage féminin auquel, oui, bien sûr, toute femme occidentale va s'identifier parce que c'est des femmes qui aiment lire, c'est des femmes qui aiment sortir dans la rue habillées comme elles veulent et à qui tout à coup tous les droits sont retirés les uns après les autres et que c'est comme un enfermement, c'est comme un film d'horreur, c'est-à-dire que c'est une mise à mort, quoi, une mise à mort lente et asphyxiante. Et il y a quelque chose de très beau à un moment, c'est qu'elle parle à son mari avec qui elle a une belle relation, c'est une relation d'amour, le mari c'est un homme bien, c'est pas un affreux mola, mais on sent bien qu'il ne comprend pas à quel point c'est insoutenable pour une femme qu'on lui enlève tous ces droits-là. Donc oui, on peut prendre ça avec un peu de condescendance, parce que en effet, c'est un film bien
c'est
pensant.
C'est un peu appuyé quand
mais
même.
C'est un peu appuyé, mais ça dit quelque chose de très fort, ça dit quelque chose de très vrai, et quelque chose qui se passe toujours aujourd'hui, et quelque chose que vivent les gens dans leur chair aujourd'hui, pour lequel les gens meurent. Et je trouve qu'un film comme ça, malgré tous ses défauts, et il faut qu'il existe, il faut que les gens le voient.
Christophe.
Difficile de prendre la parole après ce prêche religieux. C'est un film extrêmement ennuyeux, arythmique, convenu, qui enfonce des portes
ouvertes.
C'est
très facile de dire ça depuis
notre
position.
J'ai découvert en 2025 que les femmes étaient opprimées en Iran. Ça fait juste 46 ans que ça dure. Alors oui, ça a été dit déjà 1000 fois. Alors je veux bien, on peut dire, oui, il faut le dire 2000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Mais à mon avis, un film militant, c'est un film de propagande qui enfonce des portes ouvertes. Et c'est un film qui ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus. Moi, je préfère 1000 fois Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasoula, parce que là, il y a une réflexion, là, il se passe quelque chose, on comprend ce qui se passe en vérité dans cette société complexe iranienne. Là, c'est une enfilade de clichés. Alors, évidemment, c'est bien, j'ai l'impression de feuilleter un article de la presse féminine, formidable, et donc, amusez-nous. Pour moi, c'est une
La presse féminine apprécie.
Lampissante, pétri de bons sentiments.
C'était bien,
c'est
la condescendance.
Toi qui vas prendre le courrier, merci Christophe.
Bah oui, j'ai décidé d'y aller, écoute, voilà.
Charlotte.
Oula. En fait, le film, non, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on sent quand même que Erhan Riklis, c'est un vieux routier de l'humanisme international. Donc là, effectivement, il a pris un best-seller. Voilà. Donc ça, ça quand même, moi, je le sens aussi dans le scénario, dans la mise en scène. Alors, il y a quelque chose qui doit venir du livre, qui est que le film est chapitré par des titres de livres. Et j'aimais bien cette idée, c'est-à-dire de substituer au chapitre de la vie de cette femme des titres de livres. Là, on rentrait dans quelque chose sur sa relation très forte à la littérature. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, au fil du film, ce chapitrage disparaît. Donc, quand même, très mauvais signe. Et dernière chose, puisque ça fait un peu cercle des poètes, des poétesses disparues, j'aime bien qu'à un moment, il cite cet immense cinéaste et poétesse qui n'a pas fait grand-chose parce qu'elle est morte très jeune, Farouk Farrukhzade, elle dit, et c'est dit dans le film, « Nous avons regardé à travers l'oblique et vu le jardin. » Et cette notion de parler de la politique et de ce qu'il y a de brûlant à travers quelque chose d'oblique, je la trouve très belle. Et ça, ça implique de rechercher une forme et de résister en trouvant une forme singulière. Et c'est vrai que ce n'est pas ce que fait le film, hélas.
Une contribution critique pour lire Lolita à Téhéran d'Erhan Riklis. Et non. C'est donc l'heure de vos coups de cœur et on commence avec toi, Florence.
Alors, je voudrais parler de Vermilio, La mariée des montagnes, un très beau film de Maura Del Perro qui nous arrive avec le parrainage, ou plutôt le marrainage de Jane Campion. Et c'est un film qui se passe en 1944 dans les hauteurs des Apennins italiens, avec, des Dolomites, pardon, avec une histoire familiale qui vient de l'histoire de la réalisatrice, d'une famille... de l'instituteur du village, c'est une petite classe unique, un hameau vraiment où on vit une vie ancestrale qui est troublée par l'arrivée d'un déserteur sicilien, donc les deux ne se comprennent pas puisqu'ils ne parlent pas du tout la même langue. Il y a une histoire d'amour qui va naître, c'est une histoire de désir qui est beaucoup plus complexe et trouble qu'elle n'en a l'air au premier abord. Et le film a en plus une beauté esthétique absolument extraordinire, c'est vraiment un très beau film, une petite sortie alors que ça a eu un Lion d'argent à Venise, et je trouve que c'est un film qu'il faut absolument voir.
Vermilio ou La marée des montagnes, deuxième long métrage donc de Maura Del Perro. Charlotte.
On parlait de magma et de cette atmosphère un peu coloniale. Si vous avez vu Pacifiction d'Albert Serra...
avec Benoît Magimel.
Avec Benoît Magimel en gouverneur qui tourne sur l'île avant de s'effondrer. Il a une lourdeur dans ce... Eh bien, le film suivant d'Albert Serra, là, c'est ce documentaire qui s'appelle Tardes des Soledad. C'est encore un film de métier, mais cette fois-ci sur
un torero.
Un torero péruvien, d'ailleurs, Andrés Rocarrey. Et c'est absolument sidérant. C'est un film terrible, mais qui filme la corrida avec un cadrage mais impossible, extraordinaire. On se demande comment il a fait, avec une prise de son étonnante. Et j'ai eu la chance on a été à plusieurs l'interviewer, et à un moment il nous a dit: la caméra est là pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors c'est simple comme phrase, mais si un film arrive à nous montrer ça, contrairement à beaucoup de films illustratifs, moi je suis vraiment pleine de gratitude. C'est un très très beau film.
Tardes des Soledad. Xavier.
Deux films absolument superbes. Et après l'Italie et l'Espagne, moi je vous emmène au Brésil pour découvrir Baby, le deuxième long métrage de Marcello Caetano, qui était à la Semaine de la Critique cette année. Wellington est un jeune mineur qui sort de prison. Il est à la recherche de ses parents qui ne veulent plus voir, et on peut non pas comprendre, mais on comprend qu'effectivement ils refusent de retrouver leur fils puisqu'il est homo, et qu'il va retrouver dans les rues de Sao Paulo sa bande de copains queer, fluide, non cisgenre. Et un soir, dans un cinéma porno où se livre une prostitution masculine, il tombe amoureux de l'entrejambe d'abord et ensuite du cadre qui est au-dessus. C'est un film bouleversant de trafic de corps, de trafic de drogue. C'est une mise en scène absolument superbe. Je sais que le metteur en scène, qui est francophile, écoute Le Masque et la Plume, et d'abord on le remercie. Et vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. C'est d'une sensualité abrasive. On n'en revient pas et on n'a pas envie d'en revenir.
Baby de Marcello Caetano. Et Christophe ?
Moi, je vous emmène en Amérique. Il y a un très joli coffret, Sean Baker, Les Oubliés de l'Amérique, qui vient de sortir et qui reprend les quatre premiers films de Sean Baker, Four Letter Words, Take Out, Prince of Broadway. C'est pour tous ceux qui goûtent, je dirais, à la fois cette promenade dans les bas-fonds qui caractérise l'œuvre de Sean Baker et aussi l'humour amoral du réalisateur d'Anora. Et ça, je trouve que ça fait du bien d'avoir un peu d'amoralité de temps en temps dans ce monde un peu trop moral et moralisateur. Petit bémol, peut-être, il manque pour moi dans le coffret un interview de Sean Baker Baker. J'aurais voulu qu'il commande ses films et il n'est pas là, mais bon.
Coffret Sean Baker, Les Oubliés de l'Amérique. Pour ma part, je termine avec un livre du journaliste et critique de cinéma Yael Sadat qui publie Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier. Alors ça n'a rien à voir avec une somme biographique, c'est un portrait en fragments. C'est-à-dire que le livre avance de scène en scène, comme des plans de film, et pas dans l'ordre chronologique. Donc on passe d'un tournage houleux avec Jacques Audiard en 2017 à l'appart de la famille Phoenix à Los Angeles en 1980, où petit Joaquin grandit
il
avec
était membre d'une secte, il
avec,
me semble.
Oui, avec ses quatre frères, ses parents étaient membres endoctrinés dans une secte. Yael Sadat écrit des scènes très précises, des moments de tournage, des promos télé, des conférences de presse, et il retranscrit un appel téléphonique d'octobre 93. Et avec cette scène-là, avec cet appel, on comprend qu'avant d'être un visage, Joaquin Phoenix a été une voix. La voix d'un gamin en panique qui appelle les secours parce qu'il est en train d'assister à la mort de son frère, River Phoenix. Et le son de cet appel a fait le tour des chaînes d'infos américaines ensuite. Ce livre est bref, ça fait une centaine de pages. On le lit comme un roman, pourtant c'est hyper documenté. Il tisse des liens aussi avec tous les rôles, avec toute la filmographie de Joaquin Phoenix. Je vous redonne ce titre, Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier, remarquablement écrit par Yael Sadat, et c'est publié chez Capricci. Florence Colombani, Xavier Le Herpeur, Charlotte Garçon, Christophe Bourseillet, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque et la Plume. La prochaine émission se tiendra à Lyon, depuis le festival Quai du Polar, le vendredi 4 avril, pour une émission spéciale Polar, en toute logique. Et je crois que la salle du théâtre Comédie Odéon, où nous nous retrouverons, est déjà complète. Nous serons de retour au Théâtre de l'Alliance Française le jeudi 10 avril pour parler de l'actualité littéraire et cinématographique. Giraud réalise le Masque la Plume et c'est avec Cédric Chatelus, Nicolas Depagraf, Gilles Gaillard et Laurie Sanchez aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation avec Nina Malray. Rendez-vous la semaine prochaine à Lyon et sur France Inter, évidemment.